Et vous savez, les plus amoureux d'Israël, les plus amoureux d'Israël, sont toujours les Arabes. Quand ils aiment Jésus, ils aiment le peuple juif. Et ça, on a des témoignages extraordinaires en Israël. C'est, moi, j'ai entendu des chrétiens arabes, nés nouveaux, baptisés de Saint-Esprit, expliquer pour leur témoignage. Et c'est très difficile pour eux, parce que il y a une réaction de rejet aussi des Israéliens à l'égard des Arabes, même s'ils sont chrétiens. Donc ils sont rejetés par les Israéliens juifs, ils sont rejetés par les Arabes musulmans, c'est difficile. Et surtout, intercédons, intercédons pour les Arabes qui se donnent à Jésus, parce qu'ils sont vraiment une clé et ils font un travail absolument exceptionnel. Amen. Bon, ce n'est pas le sujet, mais c'est pour compléter ce que Pascal disait. Amen. Alors, nous sommes dans des années particulières. Des années particulières. Nous sommes ce que j'appelle les années de la circoncision du cœur. J'ai raconté ça l'année dernière, je le redis. Nous sommes dans des années. Ce que nous vivons aujourd'hui va déterminer ce que nous allons vivre après 2017. Ce sont 7 années, il y a eu 7 années extrêmement douloureuses. Cette année est dramatique, 70 ans plus tôt, c'était les 7 années de la Deuxième Guerre mondiale. Ces 7 années de la Deuxième Guerre mondiale ont été encadrées par 2 événements. Un événement terrible où toutes les nations occidentales qui tenaient le monde ont fait un pacte avec Hitler, l'image de l'Antéchrist, en lui disant ceci: on te vend les juifs d'Europe et tu nous donnes la paix. On te donne les juifs d'Europe. Et alors il y a ces histoires tragiques de juifs d'Europe et d'Europe de l'Est qui ont essayé de fuir l'Europe et qui ont été rejetés à la mer aux États-Unis, au Mexique et dans d'autres nations encore. Et on voit, ces 7 années sont terminées avec, enfin, les Juifs sont sortis de la Shoah en 1945. Et en fait, nous sommes exactement dans cette période, 71 ans après, qui correspond à de 2009 à 2017, 2016. Et dans cette période-là, correspondent plusieurs événements extrêmement importants. Le premier événement, la crise économique, fin 2009. Le deuxième événement, qui arrive, le grand événement qui arrive, c'est que c'est aussi la terre est en train de se craqueler. La terre est en train de se craqueler. Pendant 500 000 ans, il y avait 12 plaques tectoniques. Ça a duré 500 000 ans. C'est énorme, 12 plaques tectoniques. Et ces plaques tectoniques sont en mouvement perpétuel, hein. Il y a toujours une plaque au-dessus de l'autre, hein. Ces plaques se déplacent particulièrement, on le voit, sous la mer. Et depuis le début, depuis le 2 ou 3 janvier, eh bien, une 13e plaque tectonique a commencé. Nous sommes en 2013, il y a une 13e plaque tectonique. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que la Terre est en train de se craqueler. Et nous sommes en train de vivre le fond de la Terre, il va y avoir des secousses qui vont arriver. À partir de 2012, nous allons entrer dans une ère totalement nouvelle, une saison totalement nouvelle. Nous allons entrer dans une période de l'histoire qui va être totalement différente. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais en fait, on est à la veille d'événements graves qui vont précipiter le monde dans une succession de choses qui, en fait, ont déjà commencé. Il y a une sorte d'accélération de l'histoire. Mais en même temps, il n'y a pas que de mauvaises choses, puisque nous savons que la création tout entière souffre des douleurs de l'enfantement, attendant la révélation des fils de Dieu, ok? Donc, ces bouleversements sont des bouleversements qui annoncent le retour de Jésus-Christ, ok? Mais, comme c'est écrit, Hein. Dans Matthieu 24, dans Luc 21, hein, les nations sont arrivées au paroxysme de l'iniquité. Donc maintenant, maintenant les nations, à partir de la France, hélas, commencent à toucher, je dirais, à remettre en question les lois, ce que j'appelle les lois noachiques, c'est-à-dire les principes, hein, que Dieu a donnés au niveau des principes. Il y a des lois, ce que les rabbins appellent les lois noachiques, c'est-à-dire les principes sur lesquels fonctionne la société humaine, et dont la création en est le reflet. Et l'homme est en train de toucher à cela en profondeur. C'est pour ça que ces lois qui sont en train de se poser en France vont avoir des conséquences, pas seulement sur le pays, mais vont avoir des conséquences qui vont aller bien au-delà de la France. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre que ces lois, il y a tout un réseau qui est derrière ces lois. Il y a un réseau franc-maçonnique international qui a énormément pour pousser à ces lois. Il faut comprendre cela. Ce n'est pas comme ça un chef d'État qui prend la décision. Aujourd'hui, il faut comprendre qu'il y a des réseaux. Et derrière ces réseaux, il y a des puissances spirituelles. Donc dans le monde spirituel, il y a un combat. Et là, l'Église de Jésus-Christ, dans notre pays, n'a pas d'autre choix que de se positionner. Et ce positionnement que nous avons est un positionnement qui est courageux. Il va falloir que nous tenions le coup. Il y a des choses extrêmement fortes qui se passent en France. Et nous allons aller jusqu'au bout de ce combat. Et je vais essayer de vous dire dans un instant comment nous pouvons avoir la victoire. Une nuée de témoins nous contemple. Pendant des années, j'ai reçu du Seigneur l'ordre, enfin c'était plutôt avant 2002, j'ai reçu du Seigneur, le Seigneur m'a donné à peu près une douzaine d'années pour annoncer les catastrophes. Il m'a dit, voilà, tu vas annoncer des catastrophes, tu vas annoncer ce qui va arriver. Hein, j'ai annoncé les villes du nord de la France qui basculeraient dans la charia, j'ai annoncé, il y a deux choses que je n'ai pas annoncées pendant ces 12 années. Les humanoïdes, c'est-à-dire des robots en forme humaine, qui vont être les nouvelles armées des temps de la fin. Ça, je ne l'ai pas annoncé. Et la deuxième chose que je n'ai pas annoncée, c'est le trafic génétique. OK. Et on va faire des croisements entre les hommes et les bêtes aussi. Et il n'y a plus, c'est-à-dire qu'on est arrivé à dépasser les principes même, les lois de la création, les principes de la création, les lois de Noé. Sur le respect de par rapport à la perversion sexuelle. Il y a des limites, il y a des interdits. Et on le voit dans la création, ces interdits. Romains 1. On le voit. Et on voit aussi la gestion de l'argent, les manipulations. L'homme touche à des choses qui sont interdites. Donc en fait, ce qui est en train de se vivre aujourd'hui est la conséquence de ces 70 années passées. Pendant 70 ans, parce que l'Église était derrière ce pacte des nations occidentales, pendant 70 ans, l'Église a été comme à Babylone. Et ma génération en a souffert. Hein, comme à Babylone, c'est-à-dire que nous étions comme le peuple juif à Babylone. C'est-à-dire que pendant 70 ans, l'Église n'a plus d'impact sur les nations. Pendant 400 ans, l'Église de Jésus-Christ en Occident a eu un impact extrêmement profond sur l'Occident. Elle en a même fait, même s'il y a eu d'autres influences très fortes, il y a toujours eu toute la civilisation occidentale est fondée sur les valeurs judéo-chrétiennes. Il n'y en a pas que cela. Mais l'Église a toujours eu un réalignement dans l'histoire. Et pendant 70 ans, cette autorité nous a été ôtée. Mais aujourd'hui, pendant ces 7 années, Dieu est en train de restaurer son gouvernement prophétique et apostolique. Et ça, c'est extraordinaire.
extrêmement important. Et il le commence avec l'Occident. Pourquoi? Parce que c'est en Occident que sont, je dirais, les mères des nations du monde. Okay. Il n'y a pas que l'Occident. Mais un certain nombre de nations, comme l'Angleterre, comme la France, comme la Hollande, comme l'Espagne, comme le Portugal, sont des nations mères. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que pendant qu'il y a cette iniquité qui va amener une ruine soudaine, Dieu a déjà commencé à bâtir à construire une arche pour son Église. Et c'est ça qui est extrêmement important. Alors vous vous dites, mais où est-elle cette arche? Cette arche, elle a commencé lorsque la voix prophétique a été libérée, après 1947 et 1967. La voix prophétique a commencé lorsque Israël est ressorti de ses cendres après plus de 19 siècles d'histoire. La voix prophétique a été là pour souligner que nous sommes dans les temps de la fin qui précède le retour de Jésus. Pour souligner que nous sommes dans les temps où les prophéties dans la Bible, les prophéties des temps de la fin sont dans leur accomplissement. La voix prophétique a commencé à ce moment-là, dans les années 50 et 60, et s'est poursuivie. La voix prophétique nous a montré une direction particulière avec le vin nouveau Toronto, où nous avons été appelés à nous dévêtir de nos vêtements d'orphelins pour être restaurés au travers de la révélation du cœur du Père, afin d'être revêtis, afin de redevenir au travers de la révélation du cœur du Père, de redevenir en quelque sorte de vrais fils, Abba Père. Le mouvement de Toronto, c'est le plus puissant mouvement prophétique parce qu'il nous restitue dans notre héritage. En tant que fils, il est le Père, nous sommes ses fils. C'est pourquoi c'est toujours un rapport d'amour et c'est une ivresse. C'est l'ivresse de son amour, le vin nouveau. Le mouvement prophétique s'est poursuivi avec l'aiglan. À l'aiglan, ça a été une extraordinaire promesse et à la fois un drame. Une promesse parce que Dieu dit, voici, je vais vous donner les nations en héritage. Mais attention, mon jugement vient sur les nations. À l'aiglan, dans 2008, le réveil se termine par un divorce parce que Jésus entre dans un procès avec son Église. L'aiglan, 2008, avec Todd Bentley. Parce que Jésus entre en procès avec son Église. C'est-à-dire qu'une partie de l'Église n'a pas compris l'Eckland, n'a pas compris que Todd, c'était l'Église, c'était le choix de l'Église d'aujourd'hui. Ok? Il faut comprendre que ce divorce, parce que Dieu entre en divorce avec son Église. C'était en 2008. Et nous sommes entrés tout de suite après, pendant ces 7 années. Donc, il y a, pendant ces 7 années, l'Église de Jésus-Christ passe, les enfants de Dieu passent par un émondage. Et actuellement, il y a un phare prophétique. Il y a un phare prophétique aujourd'hui qui nous montre parfaitement la direction que Dieu veut pour son Église. Ce phare prophétique, c'est Bethel Church en Californie, avec Bill Johnson. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que ce phare prophétique? Revenons. Soyons soudés par les liens de l'amour. C'est un phare prophétique qui est extrêmement précieux parce qu'il nous amène à quoi? À nous affermir au travers de la nature de Christ en nous. C'est dans la nature de Christ que je trouve mon identité. Je suis restauré dans qui je suis en lui. C'est extrêmement important. Nous sommes dans des temps extraordinaires. Et malheureusement, une partie de l'Église ne suit pas. Et parce qu'une partie de l'Église a rejeté le prophétique. Oh, ils sont charismatiques. Oh, ils prophétisent même. Mais elle n'a pas compris. Ça ne fait rien. Cette partie va être éparpillée. Cette partie ne va pas comprendre. Plus tard, elle va revenir. C'est un peu comme du temps de Gédéon. Hein? Le peuple ne suivait pas Gédéon. Mais c'est plus tard, quand le peuple a compris ce qu'a fait Gédéon, il a suivi Gédéon. C'est exactement la même chose. Nous ne sommes qu'un petit mouvement prophétique au milieu de la famille de Dieu qui n'a pas cessé de grandir ces dernières décennies, qui pouvons discerner et comprendre ce que Dieu fait aujourd'hui. C'est pourquoi il est intéressant, il faut lire les ouvrages, que ce soit de Bill Johnson, mais ça a commencé avec La Moisson de Rick Joyner. Ça a commencé à travers les livres aussi, les livres messianiques. Parce qu'aujourd'hui, l'Église doit garder cet équilibre entre ces trois choses. La première chose, Pascal vient de le dire, c'est le rôle, ce qui se passe avec Israël, qui est le peuple physique de Dieu. Nous, nous sommes le peuple spirituel. Ce qui se passe avec le peuple juif, ou Israël, si vous voulez, c'est-à-dire le retour des Juifs, qui quittent les nations pour venir en Eretz Israël. Ce qui se passe, c'est que Dieu est en train de restaurer Israël pour que son peuple se prépare à l'accueillir. Donc il y a trois choses très importantes qui se passent en Israël. Trois choses extrêmement importantes. Que Dieu bénisse le peuple juif, on le sait. Il n'a jamais abandonné ce peuple, même dans la persécution. La première chose, c'est l'Aliya. La deuxième chose, c'est la croissance du mouvement messianique, c'est-à-dire la croissance prophétique et apostolique du mouvement messianique en Israël. La troisième chose, c'est ce mouvement messianique va être amené à quoi faire ? Est amené à vivre une sorte, il y a une rencontre. Il y a une rencontre et elle se fait. Elle a commencé en 2010. Ce n'est pas un hasard que c'est cette année-là, que fin 2009, que Robert Adler a publié son livre « L'Église messianique se lève ». C'est important parce que le mouvement messianique, c'est lui qui, en quelque sorte, va devenir le repère de l'Église des nations. Ça paraît fou parce qu'ils ne sont pas encore prêts. Mais nous, le sommes-nous, Église des Nations. Et il va y avoir comme une communion qui va se vivre. Et c'est comme cette communion a commencé. C'est pourquoi toutes ces rencontres, toutes ces connexions avec Israël, et particulièrement le mouvement messianique, même si vous n'allez pas en Israël, en lisant des ouvrages, il y a un livre excellent, remarquable, excusez-moi, pour les étudiants, hein, j'ai dit ça ce matin, c'est le livre de... Asher Intrater sur qui donc a visité Abraham, et on voit, il montre à travers il faut avoir un petit peu de notion d'hébreu, hein, parce qu'on a parfois il écrit en même des passages en hébreu dans son livre. On voit comment Jésus a toujours été là. Que Jésus, les trois anges qui ont visité Abraham, l'un des deux, c'était Jésus. Et il le montre, cet grand ange qui rencontrait Josué, Josué lui pose la question, de quel côté tu es, pour nous, pour nous, de quel bord tu es? D'ailleurs, il lui répond, c'est pas la question. C'est toi qui es de notre bord. C'est Jésus. Bien sûr, c'était pas le Jésus révélé. Alors, il montre ça d'une manière admirable, hein. Et c'est important que ce livre sorte en 2013, parce que 2013 c'est l'année de la lumière. La lumière, que ceux qui commencent à briller vont briller. La lumière est en train de briller. Mais que ceux qui ont choisi les ténèbres, on va voir la différence. À partir de 2013, tu ne peux pas mélanger la lumière avec les ténèbres. Parce que la lumière va vraiment briller et les ténèbres vont vraiment être ténébreuses. Tu vois, hein? J'appelle l'année 2013 l'année du non-retour. Non pas parce qu'on ne peut pas se repentir, on ne peut pas revenir, mais c'est comme s'il y a un endurcissement d'une partie de l'Église, hélas, et surtout des nations. Mais l'endurcissement, il n'est pas là pour qu'on ne se repente pas. Il est là parce que quand Dieu permet un endurcissement, comme lorsque Dieu, à partir d'Exode 32, jusqu'en Exode 31, Pharaon dit non à Moïse. Après, c'est Dieu qui endurcit le cœur de Pharaon. Et nous sommes dans cette période-là où, hop, on commence à voir les endurcissements. Et cet endurcissement amène le peuple de Dieu, mais aussi des hommes et des femmes qui voient cela et qui disent, mais on ne peut pas accepter ça. Ça oblige pas seulement l'Église, mais ça oblige chaque humain, chaque homme, chaque citoyen français à se positionner. Voyez. C'est pour ça que l'année 2013, c'est l'année de la révélation des cœurs aussi. Ça ne veut pas dire qu'en 2014, ils ne seront pas révélés aussi. Oh que si, oh que si, oh que si. C'est pour ça que cette année, elle est très très importante. C'est l'année de la révélation des traîtres. C'est l'année du courage. C'est l'année du dévoilement de ton cœur. C'est pour ça que l'année 2013 est une année où des nations sont en train... Il y a comme des positionnements spirituels qui sont énormes. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? J'ai dit que l'Église doit être très attentive à Israël, okay, au moment messianique, ce que Dieu fait aujourd'hui. Mais l'Église de Jésus-Christ doit être attentive à ce que font les nations. Parce que le langage de l'Église, c'est Dieu va donner à son Église, ou plus exactement à une nouvelle génération, l'héritage des nations. Non, mais c'est extraordinaire. Vous savez, je regrette d'avoir 60 ans. Je regrette. Parce que c'est passionnant. C'est passionnant. Je vois les jeunes là-bas, le long du mur, qu'est-ce que j'aimerais avoir à votre âge. C'est génial. Moi, il m'a fallu des décennies pour comprendre ce que je vous dis aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai ramé? Qu'est-ce que j'en ai bavé? Qu'est-ce que j'ai crié à Dieu? J'ai l'impression que ma génération, elle a vraiment été, je ne sais pas comment Luc le voit, mais pour moi, elle a été une génération à Babylone. Qu'est-ce qu'on a essuyé comme plâtre? Mais en même temps, on a ouvert une voie. Et cette voie-là, c'est la voie prophétique. C'est pour ça que je dis, nous sommes la génération de la génération de Toronto. On a ouvert une voie. On a montré une direction, ma génération, la direction du Père. Justement, c'est en ce temps à Babylone qu'il n'y a plus de fils, parce qu'il n'y a plus de père. Oh oui, parent 1, parent 2, bientôt parent 3, parent 4, puis on en rajoutera un cinquième. Tout le monde sera parent, quoi. Mais en fait, il n'y a pas de parent du tout. Et c'est bien le reflet de la, je dirais, de la rébellion, mais le reflet de l'errance. Nous sortons de notre errance pendant que les nations vont y entrer. L'Église est en train de sortir. Le Seigneur a posé un jugement à cause de ce traité. À cause de la... Il faudrait nuancer, parce qu'il y a eu aussi des chrétiens qui ont donné leur vie et qui ont sauvé les juifs. C'est plus compliqué que ça. Mais il faut comprendre que aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ, le Seigneur lui ouvre une voie. Et c'est beau parce que quand Jim Gall est venu il y a quelques années, il avait la photo de la libération de la France, avenue de la Grande Armée. Et il a dit, voilà, le Seigneur m'a montré cette photo et m'a dit ceci. Quand vous verrez, quand les chrétiens verront des millions de Français passer l'avenue de la Grande Armée, alors ils comprendront que le ciel de France va être ouvert. Et que Dieu est en train de lever une génération qui va transformer la nation. Et c'est extraordinaire parce que ce défilé, ces défilés, ils ne sont pas terminés. On a crié à Dieu, mais Dieu nous a répondu. Et si il y a eu deux libérations. Il y a eu la libération de 44 à Paris. Il y a la libération de 2013. Au milieu, il y a 68 avec ces défilés. Et ce que nous sommes en train de voir dans cette nation qui est en train de basculer dans un jugement sévère de Dieu, dans cette nation que le monde entier est en train de regarder aujourd'hui, dans cette nation qui peut, et que je crains fortement, va entraîner l'effondrement. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ces lois sont poussées par une autre nation qui sont les mouvements occultes des États-Unis d'Amérique. C'est exactement la mort de Louis XVI. Elle a été décidée par les États-Unis d'Amérique. Je le sais par des historiens à New York. C'est toujours ces mouvements occultes. Et il faut bien comprendre que c'est pour ça que le destin de la France est tragiquement uni au destin des États-Unis. Comme je le dis, je retourne à New York au mois de juin, je l'ai dit, et quand Chuck Pierce lui-même m'a demandé, mais pourquoi vous venez aux États-Unis? Parce que Dieu m'a appelé à être un père pour les États-Unis. Chrétiens d'Amérique, vous êtes condamnés à me supporter. Ok? Parce que le mouvement prophétique d'Amérique restaure la voix prophétique dans l'Église de Jésus-Christ. Écoutez bien, le mouvement prophétique américain, anglo-saxon, mais particulièrement, restaure la voix prophétique dans le corps de Christ. Mais le mouvement prophétique de la francophonie restaure la voix prophétique pour les nations. Et actuellement, ce défilé, c'est une voix prophétique de la France qui va parler à la nation. Et la nation sera contrainte de l'écouter. Amen. Parce que la génération qui vient, c'est une génération prophétique qui va se lever. Parce que les rêves, à partir de 2017-2018, même avant, ça a déjà commencé, mais vont être tellement énormes qu'on n'aura même plus, on pourra même plus organiser des écoles prophétiques. Il faudra former les chrétiens à l'interprétation des rêves. Et les amener aussi, après cela, on va organiser des intercessions 24 heures sur 24, parce que chaque rêve seront des avertissements. Amos 3:7. Dieu ne fait rien sans en avertir ses serviteurs, les prophètes. C'est le peuple de Dieu, la francophonie, qui est en train d'être prophétique. Il faut comprendre cela. Nous sommes dans des temps où, de même que les armées, les dragonnades et Louis XIV a voulu ignorer le mouvement prophétique de son temps, il a dû supporter la voix des prophètes huguenots, qui, soit dit en passant, ont annoncé ces choses. Je me suis énormément documenté concernant les prophètes au moment de la révocation de l'édit de Nantes, du temps du roi Louis XIV, lorsqu'il a révoqué l'édit de Nantes et chassé tous les protestants. Plus de 700 000 sont partis. Et il y a eu un puissant mouvement prophétique. En fait, il était en deux temps. On voit toujours le mouvement prophétique avec la guerre des Camisards. Avant, il y en a eu pendant 10 ans. Et il n'y a pas eu de guerre des Camisards. Et on peut dire que pendant ce premier mouvement, il y a eu des révélations extraordinaires. Et une des prophéties qui a été donnée, c'est que la France ne sera pas libérée tout de suite. Mais plus tard, en quelques siècles, la France sera libérée. Attendre quelques siècles. Ils ont annoncé le retour de Jésus au XXIe siècle, vous voyez. Ils ont annoncé la mort du roi. Ils ont annoncé la Révolution française. Et ils ont annoncé en quelques siècles avant le retour de Jésus, la rédemption de la nation française. Et ça, pour nous, c'est extrêmement intéressant. Pourquoi ? Pourquoi la voix prophétique est forte en France ? Parce que c'est la France qui a fondé l'Occident avec ses fondements judéo-chrétiens. Et il y a tout ce cheminement de Martin de Tours à Geneviève, Clovis, etc. Je ne vais pas reprendre l'histoire, mais c'est intéressant. Et je dirais, derrière cela, il y a eu tout, et c'est là où Guébillère est vraiment, le Collège Daniel est extraordinaire, pour moi, est un signe prophétique très puissant, parce que ce qui est, je dirais, ce qui a été le nerf de la guerre de la culture française, c'est son éducation. C'est à travers sa culture qu'elle a transmis les principes judéo-chrétiens. De l'héritage judéo-chrétien d'Occident. Après, il y a toujours une perversion dans l'histoire. Après, c'est le monde anglo-saxon qui l'a pris. Mais comme je le rappelle à mes amis américains, vous aussi, vous avez un héritage français. Il ne faut pas oublier que la Louisiane était française et qu'une partie de la Louisiane a été consacrée à Jésus. Tout ça, ce sont... Il n'y a pas une coupure entre le monde francophone et le monde anglo-saxon. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que ces choses qui ont existé, ces promesses que Dieu a faites dans un état de gestation, vont dans leur accomplissement pour un temps. Amen. Pour libérer la moisson qui vient. Amen. Ce n'est pas un hasard non plus que Dieu ait confié à la France les extrémités de la terre par rapport à Jérusalem. Savez-vous que j'étais à Papeete il y a un mois, deux mois, et nous étions dans l'adoration avec un regroupement de quelques églises réveillées, et c'était bondé, et on était, et puis à un moment, il y a eu, la louange était tellement forte, il y avait des sons prophétiques qui sortaient, et je voyais la guerre spirituelle qu'il y avait, et puis à un moment, et puis alors le ciel s'est ouvert, et puis j'ai vu Jésus. Jésus m'a dit, voilà, je prends Tahiti, je prends la Polynésie française, je la prends et je renouvelle mon alliance que j'ai faite avec son roi Pomare IV il y a 2 siècles. Extraordinaire. Et j'ai dit, je vous dis, c'est une date que j'oublierai jamais, nous étions le 10 mars 2013, et j'ai dit, écoutez, il y a eu une alliance. Alors heureusement, il y avait 2 historiens qui sont venus confirmer, pas pour la date précise. J'ai dit, il y a une alliance. Le roi s'était converti, a donné son cœur à Jésus, et ce jour-là, ou à peu près dans les jours qui ont suivi ou précédé, le roi Pomare IV a consacré les îles de la Société, dont la capitale n'était pas Papeete, à Jésus-Christ. Et c'est très important. C'est très important. Rappelez-vous, 2013, c'est l'année du retour. Dans le meilleur comme dans le pire. 2013, c'est au milieu des 7 années. Ok ? Des 7 années qui déterminent ce que nous allons vivre après 2017. Pourquoi 2017 ? Je vous laisse en suspens. Parce que 2017, ce sont les 500 ans de la réforme protestante. Parce que 2017, c'est le jubilé de la libération de Jérusalem. Parce que 2017, ce sont les 100 ans de la naissance du communisme. En Russie. Parce que 2017, ce sont les 100 ans de l'effondrement de l'Empire musulman. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées en 2017. Ça a été au milieu de la Première Guerre mondiale, l'humanité a tourné. Si le XXe siècle n'a pas commencé en 1914, spirituellement, le XXe siècle a commencé en 1917. Et le XXe siècle se termine en 2017. Ouais. Parce que 2017, c'est aussi les 100 ans du traité de Balfour où l'Angleterre et le Conseil des Nations ont promis de donner à Israël tout ce qui est à l'ouest du Jourdain et aux musulmans tout ce qui est à l'est du Jourdain. C'est bizarre. Vous ne trouvez pas qu'en 2017, il n'y a pas beaucoup de choses ? Nous, ce que nous retenons, c'est deux dates. L'histoire des nations, l'Église des nations, 500 ans de la réforme protestante, qui est née avec les 95 thèses de Luther en 1517. Tous les 500 ans, c'est une... Et ce qu'on retient, c'est le jubilé, les 50 ans de la libération de Jérusalem, en sachant, à la lumière de Luc 21 et de Matthieu 24, que quand Jésus dira, vous verrez que les armées n'investissent plus Jérusalem, alors, ce sera le commencement de mon retour. Donc, on voit là une accélération. C'est un temps qui est à la fois où Dieu est en train de confronter les nations. Où Dieu est en train de dire aux nations, ça suffit. Et de l'autre côté, il est en train de dire à l'Église, qu'est-ce qu'il leur dit ? Je vous prépare une voie pour prendre les nations en héritage. Et prendre des nations en héritage, c'est libérer l'esprit d'Élie, qui réconcilie le cœur des fils avec les pères et le cœur des pères avec les fils. Et c'est intéressant parce que quand j'étais à Papeete, à un moment, alors que le Saint-Esprit était en train de me montrer Papeete, la Polynésie française, c'est le lieu du monde à l'extrémité de Jérusalem. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit m'a dit, voici, je vous appelle à préparer une équipe d'intercesseurs pour proclamer ma gloire sur l'île de Pâques. Waouh, Jésus était là, le ciel était ouvert. Et je dis, attends Seigneur, l'île de Pâques, c'est pas français, c'est chilien. Alors j'expliquais, je dis, voilà, le Saint-Esprit appelle une équipe d'intercesseurs franco-britanniques, il faut des Anglais parce que ce sont les Anglais qui ont évangélisé la Polynésie, français parce que on est français, ce sont des territoires français, mélanésiens parce que les Mélanésiens et les Polynésiens sont les principaux Iliens du Pacifique avec les Micronésiens, et Polynésiens. Et je dis ça, et tout le monde se met à rire. Et me disent, mais non, il ne s'agit pas de l'île des Pâques chiliens. Il y a une île, et c'est eux qui me l'ont dit, qui se trouve exactement dans l'épicentre à l'opposition de Jérusalem, à l'opposé de Jérusalem. Et cette île s'appelle l'île de Pâques, et en polynésien, ça, on dit Rapa, et on l'appelle Rapa, qui veut dire Pâques en polynésien. Et sur la carte de cet immense archipel de 165 îles, grand comme l'Europe, la France a un immense territoire là-bas, et il y a une île qui s'appelle Rapa, et je l'ignorais complètement. Et cette île, nous allons préparer, et j'entends bien que vous soyez concernés. Pour moi, ça compte, et je le dis avec beaucoup de sérieux, parce que vous avez un message prophétique ici, qui est celui de la restauration de l'éducation chrétienne. Ça, je ne l'oublie pas. C'est important. Il ne suffit pas de poser des actes prophétiques. Ici, il faut aussi restaurer une génération qu'il faut lever pour le Seigneur. Et voilà. Voilà. Regardez comment cette... Je suis parti à Papeete. En fait, on m'avait payé le billet, on n'a pas pu m'avoir, c'est l'équipe des églises du maître à Nouméa qui avait prévu ça, c'était pas du tout prévu. Puis je ne me sentais pas du tout à aller à Tahiti, parce que pour moi, Tahiti, on s'amuse plus qu'on prophétise. Et je me disais, ça fait pas sérieux de partir là-bas. Et puis, j'y suis allé. J'ai compris là que le Seigneur m'a dit, mais si, il faut que tu sois là. Il faut que tu y sois. Merci Seigneur. Et vous voyez, c'est intéressant. Parce que cette France qui est en train de, j'ai envie de dire, et je peux le dire, trahir les fondements même de sa civilisation et l'alliance que ses pères ont fait, cette France, l'Église de France, va jusqu'aux extrémités de la terre, à l'opposé de Jérusalem, pour tresser la bannière de « Jésus revient bientôt ». Et avec les anglo-saxons, grâce au mouvement dont j'ai parlé l'année dernière, il y a 2 ans, le mouvement prophétique de la pirogue dans les îles Salomon, où ils ont eu en vision une énorme tsunami. Et moi, c'est pour ça que j'aime bien les photos de vagues. Oui, je suis pas, j'ai pas des yeux derrière la tête, mais quand j'étais assis, j'ai bien vu ce qui était là. Ah non, ça, c'est pas une vague, ça. Ça, c'est plutôt Papeete. C'est plutôt Tahiti, ça. Et cette vague va se couper en deux. Elle va partir à l'est. Elle va visiter toutes les nations à l'est. Cette vague qui va surgir du milieu, un véritable tsunami au milieu du Pacifique, qui va partir vers l'est. Et une autre vague, et cette même vague coupée en deux, qui va partir vers l'ouest. Et ces deux vagues, ces deux mouvements du Saint-Esprit, vous l'avez compris, pour se rejoindre à Jérusalem. Alors, c'est à ce moment-là que ce sera la moisson. Ou peut-être que déjà, la moisson, en 2017, la moisson ne va pas commencer à Jérusalem, elle va commencer des extrémités de la terre pour revenir vers nous. Et vous voyez comme c'est extraordinaire, c'est que Dieu est en train de nous dire, et c'est ça le rôle, le mouvement prophétique de la francophonie, c'est de dire, oh, regardez, moi je me ris, je pense toujours au psaume 2, je me ris de ce que décide le Conseil des Nations. Je me ris, les nations peuvent faire tout leur vent, tout leur cinéma, moi je me ris. Nous, on continue notre travail. On continue à prier, à adorer Jésus, à combattre. On continue à mener ce combat spirituel au travers de notre adoration et de l'intercession. On continue à faire des proclamations. Nous, le Seigneur, et la libération va venir. Et une armée, une nouvelle génération est en train de se lever. Et elle va encore, le prochain défilé c'est le 26 mai, je crois, il faut y aller. Le 5 mai à Strasbourg, amen. Le 26 à Paris, au niveau national. Merci Seigneur. Oh, on peut empêcher, on a supprimé, on a interdit les photos d'hélicoptères, on n'a pas voulu les publier. Peu importe, ça s'est accompli. Dieu est en train de faire quelque chose. C'est pour ça que cette année 2013, c'est l'année pour nous, ce qui est extrêmement importante, le ciel est ouvert au-dessus de nous. Le ciel, il faut saisir ce que Jésus est en train de nous dire. Préparez-vous. Et comme l'a dit Chuck Peace, Dieu est en train de restaurer son gouvernement prophétique et apostolique. Et cette fois-ci, ça ne va pas se faire seulement en France, mais aussi en Allemagne. À Pentecôte, je suis venu ici avant Pentecôte ou après Pentecôte l'année dernière ? Avant Pentecôte. À Pentecôte 2012, le Seigneur m'a donné l'ordre, ça m'a un peu, j'ai changé mon programme, m'a l'ordre d'aller à Heidelberg. Et à Heidelberg, je connais un frère qui s'appelle Eckhart Lorenz, qui est professeur de religion à l'université de Heidelberg. Et Heidelberg, c'est important parce que c'est la capitale luthérienne de l'Allemagne. Et dans l'avion, le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, tu vois, c'était pas la première fois que j'allais à Heidelberg, mais là, le Saint-Esprit avait insisté. Cette fois-ci, tu es à Heidelberg, à Pentecôte. Or, Pentecôte est importante parce qu'en 2012, la voix prophétique, avant Pentecôte déjà, mais la voix prophétique a dit ceci en Pentecôte 2012. Dieu restaure l'esprit de la tribu de Judas, de la tribu d'Issacar et de la tribu de Zabulon. Ça, c'est l'enseignement que j'ai donné l'année dernière exactement. Dieu restaure l'esprit. C'est-à-dire que Dieu veut vraiment une adoration qui va se monter jusqu'au ciel. Dieu veut le mouvement prophétique au travers du combat de l'intercession, combat spirituel. Dieu veut aussi la tribu de Zabulon, l'héritage des nations, c'est-à-dire c'est la tribu la plus apostolique. Je ne peux pas développer cela, je vous donne les clés. Judas, l'adoration, Issacar, le prophétique à travers le combat spirituel, et Zabulon, l'apostolique, l'autorité sur les territoires, ok ? L'héritage des nations. Et ce qui est intéressant, c'est que le Seigneur, pour Pentecôte 2013, le Seigneur, je sens que la voix prophétique est en train de dire. La voix prophétique parle énormément entre Pâques et Pentecôte. Or justement, nous sommes justement entre Pâques et Pentecôte. Et qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit ceci. Elle dit, c'est par l'amour que vous allez devenir des vainqueurs. C'est par l'amour. Le grand message de Pentecôte 2013, hein, 2013, c'est l'année médiane. L'année du milieu entre fin 2009 et fin 2016, n'est-ce pas ? C'est l'année où les choses sont en train de pivoter. Et qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire ? Mais retrouvez, comprenez ce que je vous dis quand je vous dis aimez-vous les uns les autres. Comprenez ce que je dis. L'amour fraternel, c'est le thème de l'école prophétique. L'importance de l'amour fraternel. Et les quatre piliers de l'amour fraternel. Aimez-vous. Alors je reviens toujours à Heidelberg parce que dès que moi je suis toujours prêt à me rebrancher de ces tas de choses. Je viens une fois par an. Alors vous savez, j'ai 365 jours à me rattraper avec vous pour revenir l'année d'après, me rattraper sur 365 jours après. Alors chaque fois c'est Eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Alors j'étais dans mon avion. Ah, intéressant. À l'aéroport Charles de Gaulle, ouais, c'est ça. Il y avait un autre avion qui allait partir. Il y avait le président de la République, Hollande. On partait, Si, c'était le même jour. Peut-être pas la même heure, mais c'était le même jour. Je me souviens, il y avait les journaux. Je n'ai pas vu l'avion du président. Mais je sais que ce week-end-là, il devait partir. Et j'ai dit, c'est intéressant, Seigneur. Il y a deux avions qui partent. Un prophète qui va parler au nom de l'Église de France et un président qui va parler avec le chef d'État. Ça, c'était intéressant. Angela Merkel. Et là, le Seigneur m'a dit d'être très attentif à ça. Il m'a dit, tu vois, ce qui se passe dans le politique, ça va se passer dans le spirituel. Il va se passer quelque chose. Or, il est intéressant de savoir que la foudre est tombée sur l'avion. Ça vous rappelle quoi, ça, la foudre? Le feu sur quoi? Et c'est ça que le Seigneur m'a montré. Ça a rappelé le mont Carmel, quand le feu est descendu. Moi, je priais pour quoi? Je priais pour quoi dans l'avion? Et le Seigneur m'a dit, tu vas proclamer. Qu'est-ce que tu vas proclamer? Je vais ouvrir les écluses des cieux sur l'Allemagne et sur la France. Pendant ce week-end, pendant que le Seigneur me disait « Je vais ouvrir les écluses des cieux », le Seigneur est en train de... Et je vais juger toutes les idoles qui vont tomber, qui vont être dressées. La foudre est tombée sur le... Mais pas sur mon avion. Et c'est intéressant, c'est que dans l'avion, le Seigneur dit « Voilà, tu vas faire une proclamation. » Et c'est intéressant parce que j'étais ordonné pasteur luthérien à Belfort, en même temps pasteur calviniste. Donc, j'étais dans une ville, Heidelberg, qui est luthérienne, mais qui a été un lieu d'accueil pour les calvinistes qui étaient pourchassés à cause du mouvement prophétique en France. Incroyable, hein? Et c'est ce que j'ai fait. Et dans l'avion, le Seigneur a dit, voici le signe que je vais mettre. Quand vous aurez fait cette proclamation-là, à la fin du week-end, j'enverrai un météorite qui passera de Paris vers Berlin. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai annoncé ça. J'ai dit, voilà, on a fait les proclamations. Maintenant, c'est le temps. Je le proclame au nom de Jésus. Allemagne, Église d'Allemagne, tu te lèves dans ta destinée apostolique avec l'héritage de tes pères. Tu te lèves. C'était vraiment béni. On va proclamer cela. On n'était pas très nombreux. On était une quarantaine peut-être. On était une quarantaine. On a prié. On dit voilà, dans cette ville de Luther, dans cette ville de Heidelberg, Dieu raccorde. C'est comme si on raccordait les wagons, raccrochés avec le passé. Seigneur, c'est le temps. C'est le temps maintenant de ne plus passer par le luthéranisme, mais par aller au-delà. Ne plus rester dans la nature sacerdotale du réveil protestant. Le réveil protestant amène les enfants de Dieu, les restaure dans l'appel de prêtrise, c'est-à-dire le sacrifice, le sacerdoce universel. Luther disait, nous sommes tous prêtres. On n'a pas besoin de la médiation de l'Église catholique romaine pour aller à Dieu. On a tous un rôle de prêtre. Au travers du sacrifice et du sang d'agneau, au travers de la mort et la résurrection de Jésus. Nous avons tous directement une relation personnelle avec Jésus, parce que c'est par grâce que nous sommes sauvés, au moyen de la foi. Et ce ne sont pas les œuvres, Éphésiens 2:8, afin que nul ne se glorifie. Donc la réforme protestante nous oriente vers le sacerdoce universel de l'Église. Mais la réforme du 21e siècle se tourne vers quoi ? Vers notre nature royale. Nous sommes fils de roi. Fils de roi. 1 Pierre 2:9. Nous sommes une sacrificature royale. Et alors, quand nous avons proclamé cette sacrificature royale, nous l'avons proclamée au nom de Jésus, en disant maintenant, je vous le dis au nom de Jésus, c'est maintenant que Dieu est en train de restaurer. C'est maintenant que le Seigneur est en train de restaurer le mouvement prophétique, l'autorité prophétique en France et l'autorité apostolique en Allemagne. Et c'est intéressant parce que dès qu'on a fini, les gens l'ont annoncé, effectivement, une météorite est passée sur le ciel. Alors ça a énormément impressionné, parce que vraiment, le Seigneur a été d'une précision extraordinaire. Alors, j'ai commis une erreur, j'ai dit que c'était une comète, c'était pas une comète, c'était une météorite. Mais excusez-moi, quand on regarde dans l'esprit, on peut faire une confusion entre une comète et une météorite. Alors, il y en a quelques-uns qui ont dit, le prophète, c'est un faux prophète parce que ça ne s'est pas produit. Il n'y a eu aucune comète. C'est tout à fait juste, c'était une météorite. Mais excusez-moi, pardonnez-moi si parfois je... Mais les prophètes, quand ils disaient que les Juifs allaient être portés sur les ailes des colombes, quand ils voyaient un avion, ils devaient se poser les mêmes questions que moi. Amen. Je ne suis pas le seul à m'être trompé. Si c'est ce type d'erreur, ça va encore. Je me pardonne. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est intéressant parce que 3 semaines après, Chuck puisse arriver pour faire cette proclamation. Le 17 juin. Amen. Ça, c'est intéressant. Parce que le Seigneur est en train de faire quelque chose d'important. C'est pour ça que 2017, les choses vont tourner très vite. Mais pas dans le pire, aussi dans le meilleur. Ne regardons pas le pire parce que Dieu est en train de lever une église qui se positionne. C'est pour ça que nous sommes appelés à faire des proclamations. Proclamer que le Seigneur est en train de revenir. Il revient instaurer son autorité prophétique et apostolique sur l'Europe au nom de Jésus. Et regardez l'arrivée du pape. C'est intéressant. Et le nom du pape, comme par hasard, vous trouverez qu'il a peut-être des hasards, mais il porte le nom de François. François veut dire français. C'est le vieux mot. François veut dire français. Ah, tu vois, François, c'était bien placé. Où est-elle? Je sais pas, je sais qu'elle est par là. Elle est par là. Et il y a peut-être plus d'une Françoise ici, ou plus d'un François ici quand même. Regardez, François, un pape qui s'appelle François. Extraordinaire. Et vous allez voir, ce pape va nous surprendre. Je crains qu'il ouvre des portes fort dangereuses. Oui, il y a de excellentes choses qu'il va faire et des choses très dangereuses. Ouais, c'est un peu les opposés. Essayons de retenir ce qu'il y a d'excellent, parce qu'il va permettre un puissant mouvement de l'esprit qui va sortir de l'Église catholique romaine et qui va balayer le culte de Marie, le culte des saints, le culte de ceci et de cela. Et là, attendez-vous là, la première Église qui va connaître un mouvement de l'esprit, c'est pas nous, c'est pas les protestants. C'est justement ceux chez qui on attend le moins. Priez pour l'Église catholique romaine. Priez pour l'Église. Je ne dis pas que je suis d'accord avec. Je dis que le Seigneur reste le Seigneur de son Église. Alléluia. Et c'est eux qui vont commencer à nous surprendre. Mais attendons-nous aussi, dans les années qui viennent, que la terre va encore se craqueler. Que les choses vont encore se craqueler. Et que si on ne comprend pas ce qui est en train de venir, alors on ne va pas comprendre ce que nous devons faire. Parce qu'il y a une chose que Dieu attend de nous. Nous devons comprendre, et ça c'est tout le thème de l'enseignement prophétique de cette semaine. Nous devons comprendre le prix de l'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et moi, je vous pose cette question. Qu'est-ce que l'amour? L'amour, ce n'est pas un sentiment. L'amour, ce ne sont pas des émotions. L'amour, c'est l'appel de l'autre. L'amour, c'est la recherche de la présence de l'autre. L'amour, c'est quoi d'autre? L'amour, c'est aussi, petite révision là, le don. Il n'y a pas d'amour sans qu'il y ait une partie de toi que tu donnes à l'autre. L'amour est toujours lié à un don, une partie de toi, de ce que tu as et de ce que tu vis. Et la troisième dimension de l'amour, quand tu donnes, tu sers. Il y a un service. Le don ne reste pas le don pour l'autre. Il devient, il édifie, il construit quelque chose. Et puis la quatrième dimension de l'amour, c'est l'amour, il guérit. L'amour guérit toujours. Disait Éphésiens 1 Pierre 1, verset 7, on l'a lu ce matin, c'est quoi? Soyez des... Oh là là, vous allez le réciter toute la nuit jusqu'à demain. C'est 1 Pierre 1, 7, c'est extraordinaire. Soyez des enfants de lumière. Je vous ai dit, la lumière, qu'est-ce que la lumière? On va d'abord... je n'arrive pas à tourner ma Bible. Oui, 1 Jean 1, 7. Si nous marchons dans la lumière, Jésus dit dans Jean 8, 12, je suis la lumière du monde. Hein? Si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière. Marcher dans la lumière, c'est tout simplement marcher dans sa présence. Marcher en communion avec lui. Marcher en communion et faire corps avec Jésus. Demeurer en lui, comme lui-même est dans la lumière. Nous sommes mutuellement en communion. Marcher dans la lumière sous-entend que nous sommes dans un chemin de sanctification. Sous-entend que nous marchons par l'Esprit. Il n'y a pas de lumière sans réelle, authentique démarche de sanctification. Et la sanctification nous amène à quoi? Elle nous amène à quoi? Eh bien, mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. La communion, c'est l'amour fraternel. Ce qui va, le grand moteur qui va gagner la bataille avec la nation, c'est l'amour. Mais si nous ne sommes pas capables de nous aimer dans le corps du Christ, ça veut dire que nous ne sommes pas encore morts à notre propre chair. Parce que l'amour fraternel est le fruit d'une authentique sanctification. L'amour fraternel, et je dirais, l'amour fraternel, c'est quoi l'amour fraternel? C'est le fruit d'une marche par l'Esprit. Ok? Et si l'amour fraternel est là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on recherche la présence de l'autre. L'amour fraternel, c'est ce qui se vit au sein même de la communauté. Et c'est là le message prophétique de Bethel Church. C'est-à-dire que recherche l'amour fraternel? Ta présence. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour te donner ce que Dieu m'a donné. J'ai besoin de toi, pourquoi? Pour te servir. J'ai besoin de toi, ça veut dire j'ai besoin d'entrer dans ta présence. Pour te donner, pour te servir. Et par ce moyen, je te guéris, mais tu me guéris en même temps. La guérison, elle n'est pas dans une direction, elle est dans les deux, parce qu'on est tous des meurtris de la vie. Et quelle est l'action de la guérison? Eh bien, vous l'allez, et le sang de Jésus-Christ nous purifie. C'est par le sang de Jésus que nous avons la guérison. Et la guérison, elle ne touche pas seulement celui que j'aime, ou celui que je sers, à qui je donne, mais l'amour fraternel n'est pas une affaire de deux personnes, elle va s'étaler. Et au milieu, tu as des frères blessés, tu as des frères susceptibles, tu as des frères qui vont te poignarder dans le dos. Et si tu n'acceptes pas l'injustice de ton frère, tu n'apprendras jamais à aimer. Ça ne veut pas dire que tu es d'accord avec sa trahison, avec son coup de poignard. Ça veut dire que c'est cela le prix de l'amour. Si nous voulons vaincre cette nation. Nous la vaincrons pas seulement par les proclamations, mais nous le vaincrons en nous aimant les uns les autres, en acceptant le prix. Mais pour accepter le prix, il faut que tu sois la lumière de Jésus. Il faut que tu brilles. Et pour briller, il faut que tu marches par l'Esprit. Alors tu vas me dire, mais la communion fraternelle et la sanctification se renvoient, bien entendu. Ce n'est pas une direction. Sanctification, communion fraternelle d'abord, mais ça se renvoie en permanence, parce que la sanctification, c'est comme la communion fraternelle. C'est aussi un processus qui ne cesse de grandir. Jusqu'à ce que nous parvenions tous à la maturité, à la ressemblance de Christ. Amen. Et ça, c'est très important de comprendre cela. Ce qui va être le cœur, je dirais, du mouvement prophétique, c'est que le mouvement prophétique libère la communion fraternelle. Regardez, c'est ça le message de Toronto. Le message, c'est pas ça plutôt, c'est l'opposé. Le message de Toronto, c'est le commencement du mouvement prophétique. Qui dit quoi? Qui dit que sans la révélation du cœur du Père, tu ne peux pas être dans l'ivresse de son amour. Ça, c'est le mouvement. Lakeland, c'est attention, badaboum, Dieu entre en divorce, nanana, Dieu lave une génération avec des piercings, avec des, je sais pas quoi, des colliers, tout, hein, divorce. Mais Dieu guérit. Dieu guérit. Au milieu de tout ça, Dieu fait des miracles. Dieu dit, attention, mais mon église n'est pas prête à ce que je suis en train de faire. C'est ça que le Seigneur dit à Lakeland. Je suis forcé d'entrer en divorce. Il va y avoir un tri dans l'église. Et puis, paf, l'autre mouvement prophétique qui va arriver. Dites-moi, une petite question, d'après vous, ce mouvement prophétique de l'amour fraternel, ce mouvement prophétique qui d'ailleurs a commencé à Bethel Church, si on regarde bien, dans quel pays il va se développer? Exactement, femme de beaucoup de foi. Exactement. Pourquoi? Oui, c'est le pays d'amour. Parce que si tu veux changer la nation, il faut que tu l'aimes. Il faut que tu sois capable de l'aimer jusqu'à donner ta vie pour elle. Mais pour cela, tu apprends cet amour de la nation, tu l'apprends à travers l'amour de tes frères. Parce que comme il va y avoir une pression qui va arriver sur l'Église de France, comme nous allons être, dans peu de temps, nous allons être mis en accusation, Dieu va permettre cela avant 2017. Et parce que Dieu va permettre cela, nous n'aurons pas le choix que de nous aimer et de demeurer unis les uns avec les autres. C'est notre union, une autre unité qui va être notre force dans les années qui viennent. On ne peut plus, dans ce pays de France, on ne va plus survivre sans la communion fraternelle. Ce n'est pas, tu n'as pas le choix. Tu aimes ou tu crèves. Tu n'as pas le choix. Parce que regarde ce qu'a dit Jésus à la croix. Qu'est-ce qu'il a dit? Pardonne-leur, parce qu'ils savent ce qu'ils font. Regarde ce qu'a dit Étienne. C'est parce que la persécution qui vient. Moi, je n'ai pas peur de la persécution. J'ai peur qu'il manque de l'amour dans l'Église, vous voyez? 200 millions de nos frères dans le monde sont sous la persécution. N'oublions jamais cela. Vous savez, je visite l'Église sous la persécution dans les taudis de Bombay pour la deuxième fois. Je peux vous dire que je reviens transformé. Quelle humilité je reçois! Waouh! Parce que dès que l'un trébuche, hop! Tu discutes pas. Ah non, non, il n'a pas la même vision, il n'a pas la même théologie. Tu discutes pas. Hop, tu le ramasses. Tu peux pas le lâcher. C'est comme une armée, une guerre. Si quelqu'un tombe, tu le ramasses pour qu'il soit... Tu le lâches pas. Tu prends même des risques à recevoir des coups. Tu peux même être blessé en voulant le sauver. C'est la même chose. C'est ça l'amour fraternel. C'est donner sa vie à l'autre. C'est pas... L'amour fraternel... Ce n'est pas, c'est ce qui va devenir, je dirais, la puissance même de l'Église de la francophonie, de l'Église de France. Alléluia. Alléluia. Relisez Colossiens chapitre 3, où Paul dit, mais soyez sanctifiés, renoncez au péché, à l'impudicité, etc. Aimez-vous les uns les autres. Parce que là, c'est l'amour fraternel qui va triompher. Et je voudrais rendre hommage à ce prophète anglais, Justin Abraham. Est-ce que vous connaissez cette merveilleuse prophétie? Vous l'avez déjà lue? Oui, plusieurs. C'est ça. Le Seigneur me parle à nouveau et me révéla que l'amour était ce qui donnait de l'autorité à cet ange de France qui se débat pour la France. Et que c'était par l'amour que cette guerre serait gagnée. Plus particulièrement, le Seigneur me dit qu'il était temps pour l'Église de France d'avancer sans peur, d'aimer ceux-là même qui pourraient sembler être nos ennemis. Aimez ceux qui vous entourent, aimez la communauté musulmane, aimez les autres nations. L'amour est la plus grande épée que la nation porte. Écoutez bien, l'amour est la plus grande épée que la nation porte. Et l'amour remporte le combat. Gardez le cœur et les bras grands ouverts. Il est temps de regarder des étrangers dans les yeux avec l'amour de papa. Cette guerre est une guerre d'amour. Il s'agit de renverser le mal par le bien. Il s'agit de renverser le mal par le bien. Mais avant d'aimer la nation, commençons par nous aimer les uns les autres. Et avant de nous aimer les uns les autres, positionnons-nous devant le trône du Père pour dire, Seigneur, rends-moi passionné de toi. Laissez faire. Il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec mon enseignement. Il y a des personnes qui me calomnient. Il y a des personnes, pendant des années, cela me faisait mal. Et un jour, le Seigneur m'a parlé, il n'y a pas longtemps, c'était il y a un an, le Seigneur m'a dit, mais comment puis-je te former si je ne permets pas à tes adversaires de te calomnier? Oh, comme si Dieu disait, ok, c'est horrible ce que les gens disent. C'est inimaginable ce qu'on peut dire à mon sujet. Vous ne le savez pas, tant mieux. C'est tellement vrai. Non, c'est... Ah non, mais... Non, mais je ne pourrais pas l'inventer. Eh bien, je vais vous dire une chose. Et puis en plus, ce qui est terrible, c'est qu'il y a une fausse prophétie qui est sur Internet. Je ne peux même pas l'enlever. C'est quelqu'un qui a déformé une prophétie. Il l'a mis sur Internet depuis 10 ans. Je ne peux pas l'enlever. Des tas de gens croient que c'est une fausse prophétie qui vient avec moi. Enfin, ce n'est pas grave. Mais ça m'humilie, tout ça. Je ne peux pas dire que je suis indifférent à cela. Mais d'un autre côté, le Seigneur me dit, mais qu'est-ce que tu me demandes? De briser tes adversaires? De les pardonner? Ou de rire de tout cela? Sachez une chose, l'amour c'est comme la vérité, ça triomphe toujours. C'est justement plus le mensonge est grand, plus je dirais la vérité éclate au grand jour. Est-ce que je peux demander aux musiciens de venir? Je dirais, Seigneur, le combat n'est pas facile. Pose-toi cette question ce soir. Avec les médias qui existent aujourd'hui, avec le gouvernement qui existe aujourd'hui, avec les lois qui sont en train d'être posées aujourd'hui, est-ce que tu as envie d'aimer cette nation? Dans la chair, tu n'y arriveras pas beaucoup. Mais si tu es capable d'aimer Jésus, si tu es capable de recevoir le cœur de Jésus, alors tu es capable de comprendre que l'amour de Jésus est infini pour toi. Et que l'amour de Jésus s'est donné à la croix pour quelqu'un qui ne mérite pas d'être sauvé et qui s'appelle toi ou moi. Et que cette nation ne mérite pas d'être sauvée. Mais nous nous tenons dans la prière, dans l'adoration, entre Dieu et son jugement. Afin que, au lieu du jugement, c'est la grâce qu'il apporte. Pourrons-nous empêcher la ruine de la nation? Parfois j'en doute. Mais au moins, nous empêcherons se tenir à la brèche. C'est se tenir devant la brèche qu'apporte le péché. Et dire à Dieu, si tu touches à la nation, tu es obligé de me toucher. C'est ça la brèche. Se tenir à la brèche, comme c'est écrit dans Ézéchiel, c'est de dire à Dieu, si tu touches à la nation, tu es forcé de me frapper d'abord. C'est ça que cela veut dire, se tenir à la brèche. Tu ne peux pas toucher à la nation, Seigneur, si tu ne me touches pas. C'est ça que ça veut dire. Mais ça, tu peux le faire quand l'amour de Jésus t'a embrasé. Si l'amour de Jésus t'a embrasé, Alors tu es comme Étienne qui dit, Seigneur, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Comme Jésus à la croix, comme Étienne. Sans la prière d'Étienne, il n'y aurait pas eu le ministère de Saul de Tarse. Ce soir, je te pose la question. Es-tu prêt à aimer tes frères pour être un jour capable d'aimer ce monde inique, cette nation inique, ce gouvernement inique que pourtant Dieu aime tant? Moi, je te le dis. Commence par la sanctification. Commence par te laisser, par l'onction, imbiber de l'amour du Père, afin d'être capable de te donner à tes frères. Rappelle-toi, l'amour des frères, c'est la présence, c'est le don, c'est le service et c'est la guérison. L'action du sang de Jésus. Le sang de Jésus agit dans la guérison. Alléluia. Alors, si l'Église est capable de s'aimer, alors la nation est capable de voir cet amour. Voyez comme ils s'aiment. Je voudrais qu'on prie maintenant. Seigneur, ça va être hard. Tu peux dire comme ça. Les lois, telles qu'elles se présentent aujourd'hui, c'est la fin du mariage comme il existait. Mais enfin, on ne va pas faire un procès sur ce que sont les nouvelles lois du mariage. Notre question te dit, Seigneur, nous n'avons pas su, nous n'avons pas compris ces dernières années que l'amour était la pire de toutes les bombes sur la terre. Tu as tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et l'Église de Jésus-Christ en France a tant aimé la nation qu'elle s'est donnée pour la nation. Et ce sont justement ceux qu'on attend le moins qui viendront à Jésus dans cette nation. Des mosquées, des écoles, des loges franc-maçonniques, je ne sais quoi encore. Peu importe, cette nation va revenir à Jésus. Elle va revenir à cause de l'amour dont nous allons nous aimer. C'est pourquoi, si vous avez été blessé par un serviteur, si vous avez jugé un serviteur de Dieu, si vous avez jugé une église, si vous avez jugé un frère, faites comme moi. Depuis que Dieu m'a révélé cela, toutes les semaines, je demande pardon à Jésus pour mes jugements à l'égard de mes frères. Toutes mes semaines, je brise les paroles de malédiction que j'ai dites. Oh, on est tellement convaincu que ce que l'on dit de négatif est juste, mais n'est juste que ce qui est empreint de miséricorde. Il n'y a pas de justice sans miséricorde. La vraie justice, c'est la miséricorde de Dieu accomplie par grâce pour nous. Donc si tu es revêtu de la miséricorde du Père, quand tu parles sur tes frères, de quelle justice, celle de la loi ou celle de la grâce, que tu libères dans ta bouche? Je te pose la question. Repends-toi d'avoir jugé tes frères, comme je me repens. Repends-toi d'avoir jugé des serviteurs, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ta théologie. Repends-toi! Repends-toi d'avoir jugé ceux qui te jugent et ceux qui te condamnent et ceux qui te calomnient. Maintenant, j'ai compris cela. Maintenant, je voudrais... Pardon, Seigneur! Et c'est pour ça, les premiers jours de janvier, le Seigneur m'a dit, mais je suis en train de préparer une bombe. Et cette bombe, elle est prophétique. La voix prophétique qui va se lever en France, c'est la voix de l'amour. Je sais que tu n'es pas capable de donner ta vie pour la nation. Bien que bien des de nos ancêtres l'ont fait, sinon on ne serait pas là dans un pays libre aujourd'hui. Je sais que tu n'es pas prêt. En tout cas, moi, je ne dis pas que je suis prêt. Je ne veux pas être comme Pierre pour dire, Seigneur, si on te touche, je suis prêt à mourir pour toi. Non, je ne vais pas le dire. Mais je peux dire une chose, mes amis. Il y a une chose que je peux dire. Seigneur, embrasse-moi de ton amour afin que j'apprenne à mêler mon nation en commençant par aimer les frères que je vois, les frères que je croise. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord. L'amour, ce n'est pas une question de savoir c'est pas une affaire de tête. Je suis ou je suis pas d'accord. L'amour, c'est une affaire de don de sa vie. L'amour n'est pas un sentiment. Il découle du véritable amour, du don de sa vie, un sentiment qui vient du Saint-Esprit. Je suis d'accord. Mais ce n'est pas d'abord un sentiment. L'amour, c'est le don de soi. L'amour recherche la présence. L'amour se donne. L'amour sert. 1 Corinthiens 13. La foi, l'espérance et l'amour, la plus grande des trois, c'est l'amour. Il faut beaucoup de force de caractère pour aimer. Je suis d'accord. Il faut beaucoup de violence pour aimer. Il n'y a pas de vrai amour sans violence. Tu l'as compris. Pas une violence meurtrière et suicidaire, mais une violence sur soi. Pour laisser la plénitude de Christ en toi. Je voudrais qu'on prie. Seigneur, je te le demande, je le proclame dans le nom de Jésus. Ici, dans l'église Josué, ce soit des bâtisseurs d'amour. Seigneur, que tu répandes, c'est pour ça que nous avons eu un étrange séminaire aujourd'hui à l'école prophétique. Pour la première fois depuis très longtemps, je n'ai pas prophétisé une seule fois. Nous sommes passés entre la guérison et la délivrance. Parce que nous sommes dans les temps de guérison et de délivrance. Nous sommes dans des temps de restauration. Restauration du couple. Restauration de la famille. Restauration des cœurs. Nous sommes dans les temps de pardon. C'est cela être prophétique aujourd'hui. L'année 2013, c'est l'année de la lumière. Ça veut dire que Jésus agit. Alléluia. Il y en a qui rient. Jusqu'aux oreilles, même au-delà, hein, jusqu'aux cheveux. Prie en langue. C'est ça que tu veux. Oh Seigneur, je ne suis pas capable d'aimer si tu ne t'y mets pas pour moi, Seigneur. Seigneur Jésus, je te demande pardon. Je ne fais pas lever ceux qui manquent d'amour parce que ça mettrait la honte à ceux qui resteraient assis, vous voyez. Vous m'avez compris. Parce qu'il y a ceux qui savent qu'ils ne savent pas aimer et ceux qui ne savent pas, c'est encore pire. Je préfère ne pas savoir si tu crois que tu aimes, c'est que vraiment tu as un problème avec Dieu. Ah, Seigneur, la parole de Dieu est claire. Il n'y a pas, dans Romains 3, il n'y a pas un seul juste sur terre. Il n'y a pas un seul juste. Comment voulez-vous que nous soyons capables d'aimer si nous ne sommes pas justes? C'est impensable, c'est incompatible. Parce que l'amour... c'est le fruit de la justice. Et la justice, c'est le fruit de l'amour. Alléluia. L'onction. Seigneur, nous prions, Seigneur. Seigneur, nous confessons. Seigneur, je confesse que nous ne sommes pas capables d'aimer. Nous avons tout gâché en France. L'Église a tout gâché. Seigneur, nous avons révélé, ma génération a révélé le cœur du Père. Mais ce n'est pas pour autant que nous avons compris la grandeur, la noblesse de la véritable amour agapé du don de sa vie. Pourquoi c'est la lumière? Qu'est-ce qui est au cœur de l'amour? Qu'est-ce pour les humains? Qu'est-ce que Dieu a donné pour symboliser cet amour? L'alliance du mariage, tout simplement. L'année 2013, c'est l'année de l'alliance du mariage. De la lumière. Et c'est justement l'année où notre civilisation, notre nation est en train de piétiner ce qui a été au cœur de notre civilisation, le mariage. Mais il y a un autre mariage que là, le gouvernement ne peut pas piétiner. C'est celui qui a été scellé au travers du sang de Jésus à la croix. Et c'est parce que cette véritable alliance qui est plus grande que le mariage entre un homme et une femme, c'est celle-là qui va restaurer la nation. C'est pour ça que l'année où on pervertit, en détournant le mariage de sa véritable vocation, automatiquement ont perverti l'amour. Mais parce que l'amour était déjà perverti dans la culture française. Mais en pervertissant l'amour, l'Église de Jésus-Christ est appelée, elle, à revenir au véritable amour, celui de Jésus. Et pour cela, bien aimé, il n'y a qu'une seule chose à faire. Dire, Seigneur, pardonne-moi, je ne sais pas aimer. Pardonne-moi, je ne sais pas aimer. Oh, bien sûr, nous avons toujours une dose. Bien sûr que nous aimons Jésus. Bien sûr que nous savons qu'il nous aime. Mais Seigneur, embrasse-nous de cet amour-là. Donc je t'invite à vous lever. Tendons nos mains vers le Seigneur. Pas vers le haut, pour ne pas vous fatiguer. Tendons nos mains. Prions en langue. Seigneur, nous pervertissons le véritable amour à travers le péché, bien sûr. Nous pervertissons l'amour à travers l'iniquité. Nous pervertissons l'amour du Père à travers nos formes de prostitution. Nous ne cessons pas. Parce que la France et l'Église de France se sont pervertis dans l'amour, qu'ils ont perdu. Ils ont perdu le véritable amour. La nation a perdu l'amour. Il n'y a plus d'amour dans le pays de l'amour. Et il faut retrouver. Il n'y a que l'Église qui peut donner ça. Retrouver la nature du Père, pour toi d'abord, pour toi. Pour toi, tu as tant aimé le monde qu'il t'a appelé. Oh Seigneur, pardonne-moi, je n'ai pas su t'aimer. J'ai reçu ton amour, mais je n'ai pas su le donner. Pardonne-moi Seigneur, j'ai reçu, j'ai compris quelque chose, mais peut-être que je ne suis pas allé jusqu'au bout. Pardonne-moi Seigneur, et c'est ma prière de toutes les semaines. Pardonne-moi Seigneur, mais tu me couvres de ton sang, tu me pardonnes Seigneur, mais pardonne-moi Seigneur, pardonne à ma génération, pardonne aux serviteurs de Dieu, pardonne à l'Église de Jésus-Christ. Nous n'avons pas su nous aimer, et pendant 70 ans, ton Église s'est déchirée. Elle est restée avec une mentalité babylonienne. Et pourtant, Seigneur, cet amour nous est donné, totalement, gratuitement. Prends-le ce soir. Luc va nous entraîner dans un champ. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Seigneur, je veux aimer comme tu nous as aimés. L'église d'Éphèse, c'est l'église de France. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Éphèse veut dire lumière. Si vous marchez dans la lumière, vous allez vous aimer et le sang de Jésus agira. Et l'action du sang va nous guérir. Parce que l'amour amène à guérison. L'onction. Pense plus à tes blessures. Nos blessures étaient couvertes par le sang de l'agneau. C'est à travers l'amour fraternel que Dieu va aussi nous guérir. Tu vas te tourner vers ton frère, tu vas te tourner vers ta sœur, et doucement, dans la présence de Dieu, tu vas lui dire, je te demande pardon. C'est pas lui en tant que tel. Tu t'adresses à lui pour dire, je te demande pardon de ne pas t'avoir aimé. Comme Christ m'a aimé. Demande pardon. J'ai pas su. En fait, tu t'adresses à lui comme tu t'adresserais à quel moment? Tu vas dire ça. Je te demande pardon. J'ai pas su aimer. Je te demande pardon. J'ai pas su aimer. J'ai pas su, Seigneur. J'ai cru que c'était de l'amour. Je te demande pardon. J'ai pas su aimer. Pardon. Et s'il y a quelqu'un dans la salle à qui vous devez pardonner, allez pardonner. J'ai pas su aimer. Mais il faut que l'autre te réponde. Moi, je te donne mon pardon. Il faut que tu pardonnes. Alors je lui dis, moi je te donne le pardon de Jésus. Parce que le pardon de Jésus, c'est l'amour de Jésus, c'est le sang de Jésus. Pardon Seigneur, pardonne-moi Seigneur d'avoir tellement jugé les serviteurs de Dieu. Oh, je lisais religieusement jugé. Pardonne-nous Seigneur notre hypocrisie. Seigneur, et tu donnes ton pardon, comme tu as été pardonné, tu pardonnes. Tu pardonnes. Alléluia. Seigneur, tu pardonnes.
Alléluia, l'amour. Rappelle-toi, l'amour, ce n'est pas un sentiment, c'est d'abord une présence. Tu recherches la présence de l'autre. La présence de l'autre t'apporte la joie. L'amour, c'est pas seulement la présence, tu donnes. L'amour, tu sers. L'amour te guérit. Restons dans la présence de Dieu. Restons dans la présence de Dieu. Restons dans la présence de Dieu. Ce que nous faisons des proclamations. Seigneur, moi il faut que je le dise moi-même. Moi il faut que je dise moi-même. Je demande pardon d'avoir jugé des serviteurs de Dieu. Pas toi, en tant que personne. Pas Luc, non pas du tout, je vous aime énormément. Je vous aime, non. Mais d'autres serviteurs, parce qu'ils m'ont blessé. Parce que je les ai trouvés pas convenants selon mes... Je m'en pardon. Amen. Merci. Merci. Merci, alléluia. Merci Jésus. Et je veux aimer jusqu'au bout. Et au nom de Jésus. Moi aussi je proclame le pardon. Je pardonne, amen. Je pardonne. C'est fini. C'est fini. Il ne peut plus y avoir, entre toi et moi, entre mon frère et ma sœur, il ne peut plus y avoir de jugement sans que ce soit sous le regard de Dieu, avec sa grâce. Ne confondez pas le jugement avec le discernement. Le discernement t'amène à voir une situation qui n'est pas juste sous le regard de sa grâce. Ce n'est pas pareil. Quand tu vois quelqu'un qui est hypocrite, tu dis, Seigneur, tu dis l'hypocrisie, mais afin qu'il se repente. Toute chose doit se faire à la lumière de sa grâce et de son amour. Il faut qu'on apprenne ça. Ça ne va pas être si évident que ça, vous ne trouvez pas? Il va falloir qu'on réapprenne à vivre ensemble. Et c'est là où tu es poignardé que tu apprends le mieux l'amour. C'est là où tu as été trahi. L'Église réformée de France nous a laissé, et j'ai retrouvé les pasteurs réformés. Et j'ai été pris d'une extraordinaire joie avec eux. Au contraire, c'est parce que tu as été rejeté que tu as aimé. Mais pour cela, il te faut faire l'expérience de sa grâce, la puissance de son sang. L'onction. Waouh, Seigneur. Oh, laisse Dieu juger. Ce n'est pas le temps du jugement, c'est le temps de la grâce. Seigneur, fais grâce à ton Église. Seigneur, fais grâce à la nation. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. L'onction. On va demander à Luc de nous entraîner dans un chant. L'onction. Je voudrais vraiment l'onction. Cool. L'onction. Ce n'est plus le temps. Alléluia. Ce n'est plus le temps. Alléluia, l'onction.
Amen.